Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Vous savez, je suis très attachée à nos belles régions, nos belles provinces, aux histoires qui s'y passent, quel que soit le temps, les années, que ce soit hier, aujourd'hui ou parfois demain. J'aime aussi aller à l'encontre de ces personnages atypiques ou en couleur, aussi de ces histoires, de ces provinces et de ces régions. Et puis, ça nous permet aussi bien de rencontrer d'autres personnages, de grands personnages parfois, et puis aussi des métiers, des ambitions, des idées, à une sorte de voyage initiatique en fonction des personnages et de ce qui nous ramène aussi à l'auteur. L'auteur aussi nous fait voyager, bien évidemment, au travers du livre, des pages, des mots et de ses personnages. Pour le livre d'aujourd'hui, j'ai un réel plaisir d'avoir lu ce livre. J'en parle un peu plus longtemps parce que pour moi, ça a été un véritable bonheur de découvrir aussi l'auteur, son écriture libre, légère et très riche également. Bonjour Hélène Le Gray.
Bonjour Claudine et bonjour à tous. Je suis ravie aussi d'être avec vous.
Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation pour votre dernier ouvrage, L'alchimiste de Saint-Vincent.
Saint-Vincent.
Saint-Vincent en catalan. Oui, tout à fait, j'allais le préciser. Aux éditions Calman Lévy. Alors justement, catalane, vous l'êtes. Vous êtes née à Perpignan, région que je connais assez bien parce que moi-même du sud-ouest, mais plus vers Toulouse. Voilà, donc, mais voilà, c'est une région que j'affectionne particulièrement. Alors là, vous nous racontez une belle histoire, une histoire d'un atelier de céramistes, et on y côtoie des gens comme Picasso, comme Jean Lursa. Il y a aussi un personnage un peu, comment dirais-je, revêche, de qui on va parler aussi, et puis de sa femme Suzanne. Vraiment de beaux personnages et une belle histoire. Alors, tout d'abord, on va parler de Saint-Vincent en catalan. Parlez-nous un petit peu de cet endroit. L'action se passe dans les années 50. Racontez-nous un peu d'où est venue l'idée et l'histoire.
Alors, parce que déjà, Saint-Vincent, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur des Catalans, ouais. Et pas seulement, parce que dans les années, effectivement, 50-60, la grande mode pour les artistes, c'était de faire de la céramique, ouais. Et tous les grands artistes, ils se sont partagés entre Saint-Vincent ou Valoris. Mmh. Voilà, donc c'était les deux grands centres, ouais. Et c'est vrai que ça n'avait pas été véritablement raconté, on parle beaucoup de Valoris, moins de Saint-Vincent.
C'est vrai.
Et moi, j'avais envie de le faire parce que c'est une histoire extraordinaire, en plus,
ouais.
Et son créateur, Firmin Bobby, était un personnage, enfin c'est un personnage de roman dans la vraie vie,
mm-hmm.
De toute façon. C'était quelqu'un qui est né, il est né un an avant, en 1899, donc un an qu'on a...
Avant le nouveau siècle.
Voilà, ouais. Et puis il était famille de juriste, mais artiste depuis mm-hmm. toujours, mm-hmm. homosexuel, affirmé, il ne s'en est jamais caché, ce qui était rare à l'époque. Ah,
pour l'époque, c'est un exploit,
voilà,
c'est courageux.
Dans les années 20, il se retrouve à Paris, fait de la peinture sur soie.
Uh-huh.
Il c'est les années folles et elles le seront pour lui de toutes les façons, on va dire.
Uh-huh. Uh-huh.
Voilà, et ensuite il revient à Perpignan dans les années 30, donc. Et là, il arrive avec un concept de fish and chip qu'il installe dans uh-huh. le centre-ville de Perpignan.
Oui. Et
évidemment, les Perpignanais, enfin les Catalans, ne sont pas prêts pour le fish and chip dans les années 30. Hein.
Oui, ça j'imagine.
Voilà, et donc, il va laisser tomber les chips, si je puis dire, pour garder les fish
uh-huh.
et la poissonnerie. Alors, vous allez me dire, on est très loin de la céramique, mais
oui.
En fait, pas du tout.
Oui, oui.
Parce que Firmin Bobby est donc un artiste, je vous l'ai dit, il fait de la peinture sur soie, etc., mais assez lucide, c'est pas toujours le cas des artistes, il faut dire la vérité, pour se rendre compte que c'est pas un immense artiste, c'est pas un grand artiste, Firmin, et lui, ce qu'il veut faire, finalement, c'est donner aux grands artistes toutes les conditions pour créer. Donc, il veut être un mécène, et en fait, il va tout faire pour ramasser de l'argent, si je puis dire, donc en ouvrant des poissonneries,
oui.
C'est quand même assez rare.
Oui.
Là aussi, c'est un cas particulier, parce que c'est un artiste, oui, mais qui a le sens des affaires. Là aussi, c'est pas le cas de tous
les artistes. C'est plutôt rare, même le sens des affaires,
voilà,
c'est plutôt rare.
Donc, il va avoir jusqu'à 5 poissonneries, des parts dans une flottille de pêche, des 35 camions frigorifiques. Et grâce à ça, il va, avec cet argent, il va racheter un vieux masque, qui s'appelait masque Argolès, en périphérie de Perpignan. À l'époque, c'était la campagne.
Hein. Oui,
maintenant,
fait,
ça
oui.
fait partie de Perpignan, mais
oui,
à l'époque, on est loin, on est dans les vergers.
Oui.
Et il va donc faire les travaux travaux nécessaires, mettre dedans le four et toutes les installations techniques. Donc, il y a les bâtiments, les installations. Mmh. Il fait venir les techniciens et ensuite, il invite les artistes. Mmh. Et c'est en ça que c'est un alchimiste, puisqu'il met tous les éléments à présence pour que la réaction se fasse, on va dire.
Alors, c'est le début de la, on peut dire que c'est le début de la céramique.
Oui, c'est tout à fait. C'est le début de la grande mode. Enfin, évidemment, il y avait dans le département, il y avait Gustave Violet qui en avait fait aussi. Mais c'est vrai que là, on franchit un palier. C'est vraiment une renommée internationale.
Avec, j'ai été voir sur Internet avec des merveilles. Hein. Franchement, il y a des choses magnifiques. Franchement, magnifiques. Alors du coup, ça attire les artistes, bien évidemment. Et on n'a pas moins quand même de Picasso et Jean Lursa qui sont passés par là, entre autres.
Voilà, Jean Lursa, pendant 15 ans, il est venu deux fois par an pour créer. Au départ, c'est d'abord, on le sait, Jean Lursa, c'est la tapisserie. Hein. Et il a voulu justement transposer tout son univers, qui est à la fois fantastique, un espèce de bestiaire extraordinaire, qu'il a voulu tout transposer dans la céramique. Mmh. Et il est venu le faire à Saint-Vicence. Et Picasso, il a même songé à s'installer ici. Oui. Il voulait acheter le Fort Saint-Elme à Collioure. Mm-hmm. Mais lui, c'est les affaires de femmes qui l'ont empêché. Oui. Vous connaissez le tempérament de Picasso.
Oui, oui, oui.
Et vu qu'il multipliait les aventures ici, sa dernière femme, sa dernière compagne lui a dit « Non, tu ne retourneras pas à Perpignan. » Et du coup, il est allé à Valoris. Voilà. Mm-hmm. Mais sinon, il a commencé, en fait, la céramique ici. Mm.
Oui, et puis il était aussi... Il s'est pas mal aussi inclus dans la guerre civile espagnole, hein, puisqu'il a peint, après Guernica, tout ce qui s'était passé à Guernica, donc il a peint Guernica peu après aussi. Donc il s'était investi, il avait d'autres passions aussi. Voilà, Picasso.
Oui, bien entendu, mais en même temps, donc Picasso, pour lui, le pays catalan, entendu le pays catalan, c'est la Catalogne française,
bien sûr,
c'est
tout à fait.
Le nord des Pyrénées, était très important pour lui parce que justement, c'était à deux pas de chez lui.
Tout à fait.
Il n'était pas catalan, mais il était, comme il disait, catalaniste.
Catalaniste.
C'est étonnant de dire ça.
Ça,
mais
c'est joli.
Effectivement,
ça,
il était
joli.
Catalan de cœur.
Ouais, ouais.
Et donc, il allait à la frontière et il regardait. L'autre côté des Pyrénées, qui était à l'époque l'Espagne franquiste.
Tout à fait.
Et où il ne voulait pas retourner.
Oui, oui.
Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il était venu ici. C'est aussi par la proximité de son pays et de ce qu'il avait laissé là-bas. Et bon, finalement, je vous ai dit, il a dû y renoncer, mais il y est venu souvent. De toute façon, il était venu au début du XXe siècle, jeune artiste.
Tout à fait.
C'est à Serré, donc pas loin, qu'il était venu créer le cubisme avec Braque. C'était vraiment un réflexe de venir ici pour créer. Donc, la céramique en a profité aussi.
Alors, une petite parenthèse, parce que vous parlez de l'Espagne franquiste, pour nos auditrices, auditeurs, page d'histoire, 36-39, la guerre civile, après l'instauration par Franco du nouveau gouvernement, jusqu'en 1975, jusqu'à la mort de Franco. Voilà, le préciser pour la petite note.
Et donc, entre les temps, la chape de plomb sur l'Espagne. Et donc, tous ces artistes, ces intellectuels, etc., qui ne refusaient de rentrer. Mmh. On avait aussi Pau Casals, qui était un immense musicien, qui était exilé à Prades, qui était à 10 km de chez moi.
Et Federico Garcia Lorca, qui a été torturé et assassiné par les nationalistes. Il ne faut pas oublier non plus, toujours dans la même parenthèse, les 500 000 réfugiés espagnols qui sont arrivés à la frontière française. Entre autres, à Prades de Molo et ensuite intégré dans les camps d'Argelès.
Argelès, Saint-Cyprien, le Barcarès et Rivesaltes.
Voilà, parenthèse historique fermée, mais voilà, je voulais le préciser puisque vous en aviez parlé. Alors, dans ce petit village, bien sûr, on pourrait penser que tout peut se passer bien, mais il y a toujours des personnages irréductibles, dirais-je, ou un petit peu. Et alors, notre André, ce personnage, alors, sa maison donne sur la cour où il y a les artistes qui passent. Ce qu'il ne sait pas, ce personnage un peu irascible, c'est que sa femme Suzanne adhère complètement avec ses artistes et ce courant qui arrive à Saint-Vincent.
En fait, si vous voulez, je vous ai parlé d'alchimie tout à l'heure.
Oui.
Et l'alchimie, le principe, c'est ce qu'ont fait tous les alchimistes au Moyen-Âge, c'était de trouver le moyen de transformer le plomb en or. Et moi, il me fallait un plomb. Et ce plomb-là, c'est André Escande,
c'est un sacré plomb.
De mathématiques.
C'est un plomb qui plombe. C'est un plomb qui plombe.
Voilà, mais qui va transformer en or, quand même.
Oui,
grâce à une petite pierre philosophale dont nous reparlerons tout à l'heure, sans doute.
Oui. On ne va pas tout raconter non plus.
Mais en tout cas, au départ, oui, c'est lui le plomb. Et donc, il est dans la raison à fond, lui fantaisie, son rêve, c'est que le monde entier suive la logique mathématique, tout ce qui est fantaisie, l'insupporte au possible. Alors, l'art et l'art abstrait, qui plus est. Alors, ça lui passe au-dessus de la tête. De toute façon, pour lui, c'est des gens foutres, des parasites.
Des barbouilleurs, comme il dit. Enfin,
voilà, voilà. C'est vraiment tout ce qu'il déteste. Et toute sa vie est réglée comme ça. Donc là, il est depuis peu à la retraite. Il a pris la retraite parce qu'il a vu arriver les maths modernes. Et rien que cette idée-là, lui a donné des boutons. Si
oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui.
Exactement. Il déteste ça. Donc lui, il est vraiment sur ses rails. Ouais. Et il a obligé sa femme, quelque part, les mêmes rails que lui. Sa femme qui s'appelle Sybille, en fait, au départ, mais il a trouvé que ce nom-là était trop frivole, ça lui rappelait la pitié de Delphes.
Donc il lui a donné...
Ça faisait échevelé, ça faisait pas sérieux.
C'est ça.
Donc il a décidé que vous appellerez Suzanne. Oui. Voilà. Et Suzanne, elle s'est coulée dans le moule, comme la plupart des femmes de l'époque, mais en se réservant son petit jardin secret. D'abord, c'est une pièce dans la maison où elle a ses petits bibelots, elle a sa musique, parce que les bibelots sont interdits dans le reste de la maison, évidemment.
Bien sûr.
Ils n'ont pas d'enfants.
Ça fait pas sérieux.
Non, voilà. Et puis, ils n'ont pas d'enfants parce qu'André a décidé que les enfants, c'est le chaos.
Voilà.
Hein, il en avait déjà suffisamment.
C'est le bruit et la fureur.
L'horreur. L'horreur pour lui, tout ça. Il faut vraiment une vie bien réglée, organisée, calme, etc. Et donc, elle se fait son petit, d'abord une pièce, puis aussi le jardin, la roseraie qu'elle a réussi à lui arracher de haute lutte, et puis qui est contiguë au parc de Saint-Vicence, donc du Mas à côté
du Mas
des artistes. Bien sûr, elle les voit et ça lui donne envie, elle va trouver le moyen d'y entrer, et elle va mener quelque part pendant un certain temps
une double vie
en étant Suzanne à la maison et Sybille à Saint-Vicence.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Et ça va permettre effectivement aussi à André Escan de progressivement, il lui faut du temps, mais de changer de point de vue.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà,
exactement. C'est très porteur d'espoir.
Tout à fait. Alors, Suzanne aussi a une très jolie histoire, je dirais, avec une petite fille autiste. Ce monde fermé, cet enfant fermé dans son psychisme, dans son état. Et c'est une très jolie histoire parce que ça lui permet aussi, elle, de donner tout ce qu'elle a. Elle a besoin, envie de donner de l'amour, de l'amitié, de l'attention, de la tendresse, Suzanne. Et cette petite fille, ça va l'aider aussi à sortir et à manifester ce genre de sentiments.
Oui, exactement. En fait, moi, au départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait transformer le plan en or, j'avais besoin d'une pierre philosophale.
Et,
et cette pierre philosophale, c'est cette petite fille, c'est Viviane.
C'est Viviane,
qui, en fait, ne dit pas un mot, c'est sa seule présence. Alors, c'est vrai que Suzanne, quelque part, peut exercer son amour maternel, en quelque sorte, non seulement vis-à-vis de la petite fille, mais aussi de la maman de la
maman de la petite fille.
Elle pourrait être la grand-mère, en fait.
Son âge, elle les prend sous son aile. C'est
complètement à la
c'est comme une famille. C'est comme une famille pour elle.
Exactement. Elle récupère une famille qu'elle a jamais eue finalement.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'à l'époque, ça me tenait à cœur de le dire, que c'était les mères qui étaient accusées de l'autisme de leurs enfants avec les théories de la mère frigo. Enfin bon, donc voilà, la mère était désignée du doigt en disant que c'était sa faute si la petite était autiste. Donc c'était terrible à vivre. Donc Sybille Suzanne, si vous préférez, va pouvoir être à la fois mère et grand-mère, on va dire, par procuration. Et puis surtout, cette petite fille qui, elle, est fascinée par la façade de Saint-Vicence qui est entièrement recouverte de céramique par l'URSSA, donc qui représente les quatre éléments de base qui forment la céramique, d'ailleurs, l'eau, la terre, puis le feu qui est alimenté par l'air. Et c'est une façade magnifique. Et elle s'échappe pour aller admirer cette façade. Elle est fascinée, mais on ne sait pas ce qu'elle y voit, parce que les autistes ne voient pas la même chose que nous.
Et
c'est justement cette interrogation qui va amener André Escand à se dire, mais qu'est-ce qu'elle voit que je ne vois pas?
Et donc il va
essayer, il la suit, il se met à sa hauteur, il va rester des heures à regarder lui aussi, et tout ça va faire que le plomb va se changer en or.
Ce qui est intéressant, c'est dans votre description, et c'est bien fait, c'est qu'on voit le cheminement progressif d'André, ses interrogations, le chemin qu'il parcourt, parce que c'est pas évident, il vient de loin, si je puis dire, il vient de loin, enfermé dans ses théories, et progressivement, j'avais envie de, en lisant, je me disais, progressivement, il va avoir un cerveau qui va devenir abstrait, c'est-à-dire ouvert finalement à ce qui d'ordinaire ne lui parlait pas. Et ça, ce cheminement, il est très important et vous l'avez fort bien décrit. On le suit avec lui. Au départ, on a envie de lui dire, écoute, voilà, arrête. Et puis au fur et à mesure, on lui dit, c'est bien, continue, on a envie de le prendre par la main.
C'était l'idée. C'est vrai que pour moi, mes personnages, je les aime, même ceux qui sont les plus détestables. Mais l'idée, c'était qu'au début, on ait envie de le détester, enfin ouais. de se dire, mais enfin, fend un peu l'armure. Et, ouais. je suis correcte en disant ça, évidemment. Ouais. Et apprécie ce voisinage, et apprécie ta femme qui est formidable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Mais au fur et à mesure, voilà, donc on a vraiment envie de le gifler, hein, par moment, on a envie de lui taper dessus. Mais c'est volontaire, hein. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, ben, on découvre des trésors qu'il y a derrière, que lui-même a enfouis depuis très longtemps. Et puis voilà, il va même finir par tomber amoureux de sa femme à 70 ans. Excusez-moi, si c'est pas un message porteur d'espoir, ça.
Ça l'est, oui. Alors, ce qui est porteur d'espoir aussi, c'est qu'on peut se dire, on ne peut très bien ne pas avoir la parole et dire un tas de choses.
Exactement, puisqu'elle, en fait, j'allais dire, elle ne parle pas si, elle dit un mot dans tout le livre,
oui.
le dernier.
voilà. On ne dira tout. Pas, mais on ne dit rien. On dit
voilà,
rien.
Non, on ne dit pas lequel, mais c'est tout. Donc, effectivement, c'est sa seule présence, elle est dans son monde, dans sa tête, et le fait qu'elle soit là change tout le monde autour d'elle. C'est pour ça que je disais que c'est un peu la pierre philosophale qui suscite toutes ces réactions et qui crée finalement, là aussi, des œuvres d'art, parce que finalement, la transformation du plan en or d'André Escande, c'est une œuvre d'art d'une certaine façon.
C'est vrai.
Quand même.
Alors, tout au long de votre livre, moi, j'ai eu le sentiment, en fait, d'un... Alors, c'est peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, j'ai eu l'impression d'un poème. C'est-à-dire, on parle de ce monsieur qui a créé 120 ans, et puis l'arrivée des artistes, et puis ce mat donc, où ils arrivent, et puis Suzanne qui est entre son mari et puis qui va vivre sa vie. À chaque fois, j'avais envie de mettre une musique, vous savez, avec, puis je voyais un poème. Tout au long, oui, c'est un poème qui va en crescendo avec une forme de lumière qui, au fur et à mesure, cette lumière, elle augmente, d'intensité. Et alors, c'est pas un tunnel, c'est un éclairci pour chacun. On a l'impression que dans l'autre, chacun puise quelque chose de nouveau et qu'il apprend. Pour moi, ça a été comme une forme de poème.
Et je dirais plus la lumière et la couleur.
Et
il y a
couleur,
de plus en
sûr.
Plus de couleurs, parce
bien
que forcément,
sûr.
Ça correspondait à ces œuvres d'art, à ces céramiques, etc.
Bien
d'ailleurs, la couverture du livre, vous l'avez vu,
oui.
Elle est turquoise,
très colorée,
avec,
très belle.
Avec le coquelicot rouge au milieu.
Une de mes couleurs préférées.
Et la lumière
très
et
beau.
La couleur, ce que viennent chercher les artistes ici, en pays catalan. Hein, voilà, il y a Matisse et Derain qui ont inventé le fauvisme aussi à Collioure.
Oui.
Enfin bon, il y a plein de peintres qui sont venus.
Mais la couleur de la région, la lumière de la région,
c'est
ne
ça.
Serait-ce que la lumière de la région, déjà, c'est déjà un tableau vivant, déjà.
Et c'est pour ça qu'il fallait que moi, je le rende dans mon style d'écriture, forcément. Il fallait que, voilà, ça participe à un tout. C'est pas juste des mots qui ont un sens, il y a un rythme, il y a un phrasé. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit, une musique aussi.
Oui, une musique.
Et il y a la lumière, et il y a les couleurs. Tout est dedans, voilà. Et je suis ravie de voir que j'ai atteint mon but.
Et les personnages aussi donnent leur propre tempo aussi, leur propre musique, en fonction, au gré de leur tempérament, de leurs sentiments, de leurs émotions. C'est ça aussi qui est important, c'est que vous auriez pu écrire le livre en décrivant chaque personnage, leurs expériences. Mais en plus, on sent l'émotion qui est là, c'est-à-dire il y a la couleur de l'émotion et l'émotion de la couleur. Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà, et chacun ayant sa propre musique, chaque personnage.
Oui. Alors, en même temps, bon, je sais pourquoi, enfin, je devine pourquoi vous avez choisi une petite fille autiste. Cela dit, ça aurait pu être aussi une petite fille qui parle, qui s'exprime et qui apprenne des choses verbalement à André. Elle lui apprend sans parler. Mais la raison particulière pour avoir choisi cette petite fille autiste, c'est que tout est possible. Le langage, il y a le langage des yeux, du corps. Et de l'esprit, tout simplement.
Ben déjà, parce que si quelqu'un était venu lui parler, il n'aurait pas écouté.
Oui.
Déjà, il n'était pas accessible à ça dans la mesure où il est professeur lui-même, donc c'est lui qui parle et les enfants écoutent. Il est dans cette logique-là, on est dans les années 50. Hein,
oui, bien sûr. Oui.
Et donc, et les enfants, en plus, ils ne les aiment pas. On le répète, c'est le chaos.
Oui.
Donc, un enfant, entre guillemets, normal, enfin, on dit neurotypique,
neurotypique
c'est comme ça qu'on dit,
ne
l'aurait absolument pas intéressé. C'est justement la différence. Et en fait, il se rend même compte que sur certains de ses agissements, lui, de ses attitudes, il a des attitudes qui peuvent s'apparenter à l'autisme. Il est enfermé dans ce monde hyper organisé. Les autistes ont besoin de rituels comme ça, etc. Donc il a des choses en commun avec cette petite fille qui ne parle pas et qui ignore, elle ignore totalement sa présence.
Oui, c'est
et
vrai.
C'est sans doute parce qu'il n'aime pas les enfants, entre guillemets, qu'elle l'accepte, parce que Un autre serait allé vouloir prendre la petite dans ses bras, ce qu'elle n'aurait jamais accepté, elle aurait piqué une crise, aurait essayé de lui parler, alors que lui, en fait, non. C'est le regard de la gamine qui l'intéresse. Donc, il reste à distance, il est à côté et elle le tolère. Et ils s'apprivoisent mutuellement presque un peu comme le petit prince avec son renard.
C'est vrai.
Et voilà, par la proximité. Et c'est cette proximité-là qui fait le lien et non pas les paroles.
Au lieu de « dessine-moi un mouton », elle aurait pu lui dire, il aurait pu lui dire, bah, donne-moi de la couleur, fais-moi voir la vie en couleur.
De la couleur et de la couleur dans sa vie.
Dans sa vie, oui.
Parce que j'aurais presque dire, il a vécu toute sa vie en noir et blanc.
Oui.
Et tout d'un coup, la couleur va éclater partout. Oui.
Alors justement, on se pose la question aussi, pourquoi il est comme ça, pourquoi on dit, ça peut être le tempérament, c'est le personnage, c'est son caractère, c'est de l'hérédité. Mais en même temps, je me suis dit, vous savez, il y a les gens qui ont peur de la vie, de la peur du plaisir et la peur du bonheur. Et je me suis dit, il s'est enfermé dans ça, c'est une forme de crainte, la peur d'être heureux, quelque part aussi.
Oui, voilà, enfin, je l'explique au fur et à mesure, on a des éléments, il a perdu sa mère quand il était jeune, il est intellectuel, parce que c'est vrai qu'il est d'une famille d'agriculteurs, donc c'était un peu celui qui était différent, et il a dû se faire à un monde qui n'était pas le sien au départ. Et donc, effectivement, il s'est enfermé là-dedans. Et ce qui le rassure, lui, c'est les équations, c'est l'arithmétique, c'est tout ce qui est
logique,
rationnel. Là, au moins, ça ne bouge pas et tout s'explique. Il veut même expliquer la Bible, alors, c'est vous dire. À quel point ça le rassure. Donc, il va, au fur et à mesure, prendre l'armure et accepter de prendre des risques et même accepter des idées que, jusqu'ici, il refusait avec véhémence.
Ce qui tente à prouver que tout ça était en lui et ne demandait qu'à éclore, finalement. Aussi.
Oui, tout à fait, qu'il l'enfouissait très profondément.
Très profondément.
Il faut beaucoup de travail pour le faire remonter à la surface, parce qu'il n'en a pas envie. Pendant des années, il ne veut surtout pas. Et donc, c'est un petit peu contraint et forcé, mais ça va finir par bouillonner, par sortir.
Mais le personnage de Suzanne aussi est très attachant, parce qu'on la voit qui, progressivement, prend son envol, ouvre ses ailes, fait sa vie, s'organise, et puis va à la rencontre des autres. Alors, elle, sa vie est déjà en couleur, parce que c'est déjà un personnage qui a un regard sur la vie assez optimiste, elle n'est pas enfermée, mais on la voit vraiment devenir elle-même. Et ça aussi, ça devient une chrysalide, Suzanne.
Ben, ça correspondait aussi à la libération de la femme, j'allais dire, même si elle est âgée.
50.
Je voulais vraiment que ce soit un couple de personnes âgées, parce que c'est jamais les héros des histoires, c'est toujours des gens assez jeunes, beaux, amoureux, etc. Donc je voulais que ce soit un couple de personnes âgées, parce que je pense que tout est possible encore.
Bien sûr.
Et effectivement, elle a été de ces femmes qui ont dû subir, mais en même temps ont tiré leur épingle du jeu. En douceur, on va dire, comme ça, malgré les impératifs que leur mari leur dictait. Mais en même temps, elle voit la jeune génération arriver, y compris sa nièce. Elle les envie aussi de pouvoir travailler, de pouvoir ouvrir un compte en banque. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qu'il a fallu attendre 1965 pour que les femmes puissent travailler sans
autorisation du parent et avoir
et ouvrir un compte en banque à
ça
soi.
Fait. Tout à fait.
Voilà, 1965, c'est récent. Et donc, elle les voit et donc, elle a fait avec ce qu'elle avait et je pense qu'elle a fait au mieux. Elle a réussi à ne pas trop s'étioler et à garder ses trésors en elle, même si ils sont bien cachés en quelque sorte. Mais elle a son jardin secret qui l'ont sauvé. Sinon, elle aurait été en répression. Et elle voit les jeunes arriver et elle souhaite vraiment que pour les jeunes femmes, ça soit différent. Et voilà, donc elle accompagne aussi cette mutation, va dire, cette bascule.
Et puis son regard sur un monde qu'elle ne connaît pas et qu'elle découvre aussi, pour elle, c'est fabuleux. C'est une ouverture sur le monde extraordinaire pour elle, toutes ces artistes.
Elle adore, contrairement à son mari. Mais elle n'est pas prof de maths non plus.
Elle n'est pas prof de maths non plus, c'est vrai. Mais même, je me dis, si elle avait été prof de maths, je pense que l'esprit aurait peut-être été aussi différent, de toute façon.
Oh, sûrement, qu'elle n'aurait pas été le même professeur que son mari. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sybille Suzanne aussi. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, même André va finir par avoir ses yeux vont se dessiler et enfin, alors qu'il l'a connue jeune, quand ils se sont fiancés, elle était très jeune.
Oui, très jeune, oui.
Et il va avoir mis beaucoup de temps avant de la voir vraiment telle qu'elle était.
Alors, quand on écrit ce genre de livre, parce que c'est un livre qui est riche, je suppose que ça demandait aussi des recherches, de la lecture, un bouillonnement intellectuel, mais ça doit être aussi un grand plaisir, un vrai bonheur de faire ce livre.
C'est la chasse au trésor. Moi, je connaissais Saint Vicenne depuis toute petite, parce que ici, de toute façon, à Noël, on va voir la crèche, il y a la crèche en céramique de Saint Vicenne tous les ans depuis la libération. Donc là, j'y suis allée encore là, en décembre dernier. Voilà. Et puis, c'est là aussi où, quand il y avait des mariages à Perpignan dans les années 60, parce que moi, je suis née au début des années 60, eh bien, les photos de mariage se faisaient dans le parc de Saint-Vicène parce que c'était tellement beau comme cadre et que Firmin Bobby ouvrait son parc à tout le monde.
C'est à quelle distance de Perpignan?
Ben, en fait, là, ça fait partie de Perpignan.
Maintenant, ça fait partie de Perpignan.
Voilà, tout à fait. C'est à côté de ce qu'on appelle la ville nouvelle du Moulin Avant,
d'accord,
c'est au sud de Perpignan.
Okay.
Mais à l'époque, il fallait...
Oui, c'était la campagne.
...une route départementale qui passait à travers les vergers pour y arriver. Voilà, ça. Maintenant, c'est à l'intérieur de Perpignan. Et donc, c'est quelque chose que je connaissais depuis toute petite. Et j'ai voulu en savoir plus, bien sûr. Donc, je me suis plongée, évidemment, dans les journaux de l'époque, dans les livres, évidemment. Mais je suis surtout allée à Saint-Vicent, où... On m'a ouvert, la famille Bobby m'a ouvert toutes ses archives et je suis allée plus loin. J'ai fait de la céramique. Je me suis initiée à la céramique parce que je voulais, moi, avoir les sensations.
Ouais, vous rendre compte. Voilà. Le vivre.
Voilà,
le vivre.
Pas seulement le visuel, mais aussi
le sentir.
Ce qu'on ressent au bout des doigts.
C'est ce que j'allais vous dire.
Je voulais vraiment. Donc, j'ai appris à faire de la céramique aussi.
Et donc de peindre sur la céramique, de faire comment ça se passe?
Démailler de la terre cuite, voilà, exactement.
Et quelle sensation ça, quand vous avez eu l'impression de plonger dans un monde de comment dirais-je, d'arriver à quelque chose, de toucher une sorte de comment, je sais pas un nirvana, mais quelque chose de qui vous semblait inaccessible et ça vous est devenu accessible? Comment?
Alors c'était plus une idée, parce que c'était pas ça faisait pas partir de mes rêves initialement, c'est vraiment pour le livre que j'y suis allée.
Oui.
Et ça a été une extraordinaire découverte, et à plusieurs titres, parce qu'en fait ça correspondait tellement à ce que j'étais en train d'écrire.
Oui.
Parce que bon, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on émaille de la terre cuite, au départ, en fait, les pigments sont très pastels. Et c'est au four, une fois passé au four, que la couleur éclate. Exactement comme dans mon livre. Et le plus drôle aussi, c'est que ce que j'ai peint, moi, sur ma terre cuite, enfin, sur le plat que j'ai émaillé, c'était un bouquet avec deux épis de blé, un bleuet et deux coquelicots.
Ouais.
Or, à ce moment-là, j'avais pas prévu du tout de mettre des coquelicots dans mon livre. Et lorsque
Dalmanelli
m'a envoyé la couverture, ils avaient choisi, ils m'ont proposé
des
cette couverture où il y a les mains de la petite fille qui tiennent un coquelicot.
Tout à fait.
Et je me suis dit, c'est un signe. Enfin, voilà. Oui, il faut qu'il y ait un coquelicot. Et du coup, j'ai mis des coquelicots dans le livre et ils ont leur raison d'être. C'est-à-dire, c'est pas juste, ils font pas de la décoration.
Oui, oui, non,
ils ont un rôle véritablement.
Ah ben,
donc, vous voyez, le fait d'avoir moi-même choisi, pourquoi, je ne sais pas. J'ai fait un bouquet, on va dire, estival. Voilà. Fait avec un bleuet, deux coquelicots et deux épis de blé.
Ça doit être très joli.
Et en fait, ça correspondait à ce que j'étais en train d'écrire et je ne le savais pas.
En tout cas, c'est un beau livre plein de poésie, de beaux personnages. C'est une belle peinture, une belle fresque aussi, dirais-je, de toutes les couleurs. Et c'est vrai qu'on en ressort bien serein parce que c'est une belle histoire. L'alchimiste de Saint-Vicène. Voilà, je vais y arriver, de Saint-Vicène aux éditions Camille Lévy. Votre prochain projet écriture nous emmènera où, Hélène?
Alors là, cette fois-ci, on va l'écouter parce que ce sera de la musique et du chant lyrique.
D'accord. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Eh bien, écoutez, on sera heureux de vous accueillir dans quelques mois pour ce nouvel ouvrage.
Ce sera avec grand plaisir. Je suis en train de travailler dessus.
En tout cas, voilà, je rappelle l'alchimiste de Saint-Vicène aux éditions Kalman Lévy avec Hélène Le Gray. Merci infiniment. Et puis, je vous dis à dans quelques mois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Claudine. Et puis, une bonne année à tous les auditeurs.
Justement, voilà. Eh bien, écoutez, ils vous entendront. En tout cas, je vous réitère aussi à tous, comme Hélène, une très bonne année à vous tous, auditrices et auditeurs. Et puis de nouveau, je vous remercie de cette fidélité depuis toutes ces années que je suis à ces deux ailes pour délivrer vous. Nul doute que j'essaierai de faire bon usage de cette confiance que vous m'animez tous les dimanches. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.